Autre rôle pour un prêtre, être juge. Alors être juge, ça va être donc de juger les affaires. C'est un lien avec la lumière et distinguer le pur et l'impur, hein, et l'enseignement bien sûr. Mais on vient le voir pour des cas d'adultère par exemple. Et donc, ce qui fait qu'on est un bon juge, c'est-à-dire on est quelqu'un qui va être fiable dans ses jugements, dans les jugements qu'il rend, c'est la pureté. C'est-à-dire la pureté d'avoir un feu sur notre autel qui est un feu pur. C'est-à-dire on ramène tout au Seigneur, tout ce qui nous arrive, on le ramène au Seigneur, même quand on se dit je suis un gros nul ou je viens de commettre un péché, je remets le Seigneur, je fais brûler ce que j'ai dans le cœur. Il faut toujours avoir cette pureté qui revient, et c'est ça qui fait que on est un juge, quelqu'un qui va avoir une capacité à discerner de manière saine sur les situations. Ça rejoint un petit peu la question de l'oracle, mais le jugement, ça va être beaucoup aussi dans les affaires temporelles, dans Jésus qui dit « Qui m'a établi juge entre vous et moi ?» quoi. Il dit « C'est pas à moi, Jésus, de juger pour vous, c'est pas Dieu qui... On lance le truc en l'air, et puis s'il tombe d'un côté, la femme, elle est adultère, et puis s'il tombe de l'autre, c'est qu'en fait, on l'a accusé à tort. » Ça, c'est de la superstition. C'est pour ça que Jésus dit « Qui m'a établi juge ?» Pourquoi ? Parce que là, il s'agit pas d'un discernement, il s'agit plutôt de mettre un... Enfin, si, il y a un discernement, mais d'utiliser les outils qu'on a pour réfléchir sur une situation de données en disant « Le cas général dit que quand il y a telle situation, voilà ce qu'on doit, voilà ce que dit la loi finalement. Et ensuite, je prends le cas particulier de la personne que je juge et je mets en relation la loi générale et le cas particulier avec les circonstances atténuantes, avec ce que la personne a voulu faire, qu'elle a fait exprès ou pas, qu'elle était pleinement consciente ou pas, etc. Et je vais rendre un jugement. Et le critère, le Seigneur nous aide quand on est pur, et c'est pour ça qu'une des grandes attaques, c'est l'attaque contre la pureté, notamment le problème de sensualité. Le démon s'attaque beaucoup, bah, notamment aux prêtres d'aujourd'hui, avec les péchés de luxure, en fait, et avec nous aussi, les laïcs, en fait, on est très tentés par la luxure. Pour les hommes, ça va être beaucoup regarder les autres femmes en les désirant et sans suffisamment, encore une fois, mettre le Seigneur sur l'autel de notre cœur pour dire « Comme elle est belle, cette femme, je te l'offre et je passe à autre chose. » Et puis non, on va se complaire. Et puis pour une femme, la luxure, ça se traduit peut-être plus, je ne suis pas une femme, donc vous me direz si je suis complètement à côté, mais peut-être d'admirer un homme au niveau de ce qu'il est, pas forcément le physique, mais plutôt l'être corps âme esprit d'une personne, et peut-être aussi la capacité de contrôler les choses en fait. Un homme va avoir une porte ouverte pour tromper sa femme quand il va voir une autre femme nue, alors qu'une femme, c'est quand elle va trop se confier à quelqu'un du sexe opposé. Vous voyez, c'est-à-dire que le premier pas finalement pour un homme, mais enfin ça marche aussi pour les hommes et pour les femmes, c'est interchangeable, mais ça va être plus marqué chez les hommes de franchir un mauvais pas quand il va voir trop d'autres femmes, le physique de d'autres du sexe opposé, alors que pour une femme, c'est quand des fois elle va aller trop loin dans des choses intimes qu'elle va révéler à un homme et qui peut se créer un lien. Affectif, ouais, c'est ça. Et un lien d'impureté au sens biblique, en fait. C'est-à-dire qu'il va faire venir un feu impur, parce que ce n'est pas notre conjoint qui va être le premier à faire brûler ce feu avec le Seigneur, pour que ce soit bien du bois sec qui brûle dans notre cœur, quoi. Donc, tout le plan du démon, finalement, c'est de faire rentrer la sensualité chez les prêtres et puis chez les baptisés, pour que notre capacité à juger soit faussée, quoi, parce que ça enraye tout. Il y a un protestant qui a écrit un livre qui s'appelle L'Esprit de Jézabel, et effectivement il montre ça, que la base c'est toujours une sensualité. On voit Salomon, hein, qui est le juste, le juge le plus grand de la terre, et son péché le plus grand, c'est d'avoir eu des femmes étrangères, c'est-à-dire d'avoir commis l'adultère en fait avec d'autres divinités, quoi, puisqu'il n'osait pas dire non aux femmes qui voulaient bâtir des temples à d'autres, aux Astartés, aux Baals, etc. Un dernier rôle des prêtres qu'on peut souligner, c'est qu'ils sont gardiens de l'Arche d'Alliance. Alors ça, c'est le truc qui m'a le plus passionné. L'Arche d'Alliance, parce que alors c'est génial. Étudier l'Arche d'Alliance, c'est... Ils étaient gardiens de l'Arche d'Alliance à Jérusalem et durant les guerres. On le voit dans le livre de Samuel. Alors, que représente l'Arche d'Alliance ? Alors, d'abord, l'Arche, c'est un coffret en bois, recouvert d'or, qui contenait les tables de la loi, le bâton d'Aaron et de la manne. Voilà, coffret en bois recouvert d'or, avec la manne, les tables de la loi reçues au Sinaï, enfin la deuxième version des tables de la loi gravées au Sinaï, et le bâton d'Aaron. Donc, l'arche, dans la tradition biblique, c'est le marchepied de Dieu, c'est l'objet rituel le plus sacré de l'Ancien Testament, c'est le lieu par excellence où on consulte Dieu, parce qu'il y a la présence de Dieu dedans, c'est ça l'arche. Donc forcément, on ne touchait l'arche que quand on était prêtre. Et il y avait le propitiatoire dessus, qui était cet élément en or, qui comme un couvercle en fait, d'une boîte, et avec deux anges des deux côtés, avec les ailes des chérubins, voilà, qui représentent symboliquement les vrais chérubins qui veillent sur l'arche. Donc seuls les prêtres pouvaient le toucher. Donc la chose la plus sainte qu'il y a dans le peuple d'Israël, seuls les prêtres peuvent les toucher. Et quand l'arche partait, Moïse, qui est un des grands prêtres par excellence, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, que soient dispersés tes ennemis, que fuient devant toi ceux qui te haïssent. » Et quand l'arche se reposait, il disait « Reviens, Éternel, vers les myriades des milliers d'Israël. » Voilà. Donc on a quelque chose qui est l'objet le plus saint qu'on trouve dans le peuple d'Israël, et c'est les prêtres qui ont la charge de veiller sur l'arche. Et effectivement, il y a un moment où les Israélites essaient de conquérir le pays, alors que Moïse leur a dit « n'y allez pas pour l'instant ». Et il leur a dit « l'Éternel n'est pas au milieu de vous », et ils y vont sans l'arche et ils se font décimer en fait. Donc on retrouve encore cette idée que sans l'arche, il manque quelque chose et qu'on est faible spirituellement. Voilà, dans le deuxième livre des Maccabées, chapitre 2... on raconte qu'au moment du siège de Jérusalem, juste avant la déportation du royaume du Sud, Jérémie, qui est un des prêtres à ce moment-là, cache l'arche dans un lieu qui avait été révélé à Salomon. Alors, ça c'est aussi la tradition juive qui dit ça, que Salomon avait eu en vision, quand il avait construit le temple, de bâtir une cavité dans le sous-sol du temple, parce qu'il y aurait besoin un jour de cacher l'arche et les objets sacrés. Et donc Jérémie dit, il faut que l'arche reste cachée. Au chapitre 3 de Jérémie, il dit ça, jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée. On a un glissement, c'est-à-dire que l'arche est le marchepied du Seigneur, et petit à petit, en Jérémie 3, il est annoncé par un oracle que c'est petit à petit Jérusalem, donc le peuple entier, qui va devenir le marchepied du Seigneur, c'est-à-dire le lieu où le Seigneur se manifeste. Jésus vient accomplir ce passage, puisque c'est plus seulement dans le temple, il dit ça à la Samaritaine, un jour viendra où c'est plus uniquement sur ce mont-ci ou au temple qu'on adorera le Seigneur, mais on l'adorera en esprit et en vérité. Et effectivement avec l'Eucharistie, puis avec la présence baptismale, avec mon baptême, j'ai Jésus au fond de moi, et je suis capable, en fermant les yeux, ou même sans fermer les yeux peut-être si je m'entraîne, de retrouver sa présence au fond de moi. Je deviens moi-même un membre, comme une arche, avec un autel sacré quoi. Donc ça, c'est ce que dit la Bible sur l'arche, avec une parenthèse, c'est qu'elle a été retrouvée, il y a un reportage sur Gloria TV, moi je suis frappé parce que ça y est, on est dans le temps où l'arche a été retrouvée, il y a un gars, il y a un ange qui est venu le voir et qui lui a dit, il faut que tu creuses là, au niveau du mur de l'enceinte de Jérusalem, il a mis 2 ans ou 3 à creuser, je sais plus, et il a trouvé l'arche quoi, avec, il a même vu les chérubins, il a retrouvé les lampes, il a retrouvé l'épée de, voilà, et il a été persécuté jusqu'à sa mort. Personne d'autre que lui n'a pu aller voir l'arche. Les seuls qui y sont allés, ils sont morts. Il a dû aller les chercher parce qu'il voyait. Et l'arche a été retrouvée, quoi. Mais l'arche aujourd'hui garde un rôle peut-être plus, enfin, cet objet-là, peut-être plus pour manifester la sainteté de Dieu à ceux qui ne croient pas encore en Jésus. Alors que nous, on sait déjà que la sainteté, elle se manifeste dans d'autres choses et c'est ce que j'aborde tout de suite. En quoi ? Pour les juifs notamment, et puis pour d'autres peut-être qui
signifie aux juifs,
ouais. Les juifs attendent le Messie en lien avec retrouver l'arche. Donc l'arche, c'est le lieu le plus saint. Et les pères de l'Église ont dit que comme il y avait les tables de la loi, la loi nouvelle par excellence, c'est Jésus, il y avait la manne, la nourriture par excellence, le pain par excellence, c'est Jésus, et il y avait le bâton d'Aaron, le berger par excellence, c'est Jésus. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il. L'arche, c'est le lieu par excellence qui contient Jésus. Et donc, dans l'Ancien, tout le Nouveau Testament sous-entend que l'arche, c'est Marie. Parce que, donc on a ça, ce que je vous ai dit, que les, donc les tables qui représentent Jésus, le bâton d'Aaron qui représente le berger par excellence, la manne qui représente l'Eucharistie, donc Jésus par excellence, donc la Vierge Marie. On a Marie qui reste 3 mois chez Élisabeth et qui repart, exactement pareil que dans le livre de Samuel, et l'arche resta 3 mois puis repartit. Il y a un parallèle dans vos Bibles, vous chercherez. Le parallèle avec le livre de Samuel, c'est une manière de souligner que l'arche qui contient Jésus visite un lieu pour repartir et pour sanctifier ce lieu. Et le lieu qui est visité, c'est Jean-Baptiste qui est sanctifié dans le sein de sa mère. C'est très beau. On a aussi dans l'Apocalypse, fin du chapitre 11, et alors l'arche de l'Alliance du Seigneur s'ouvrit dans le temple avec beaucoup de fumée. Et souvent on coupe, et puis on dit, bah après on parle d'autre chose. Mais en fait, moi je pense qu'il faut mettre 2 points. Et alors, une femme apparut dans le ciel, tenant la lune sous ses pieds, etc. Voilà. Donc l'arche apparut, 2 points, l'église par excellence, et la Vierge Marie qui contient, contient l'enfant Jésus qu'elle enfante, et qu'elle enfante dans tous les croyants que nous sommes. Donc, quand on a la Vierge Marie, on a une assurance vie, je dirais, on a la sainteté par excellence qui nous accompagne. Voilà. Et pourquoi la Vierge Marie est-elle une fontaine scellée pour les protestants et pour les témoins de Jéhovah et autres, et les musulmans? Non, pas les musulmans, mais les certaines personnes qui ne reconnaissent pas la Vierge Marie, c'est parce que la Vierge Marie nécessite l'obéissance à l'enseignement de l'Église. Et donc, elle est voilée pour ceux qui n'obéissent pas au magistère, finalement. Et donc, on ne peut avoir la Vierge Marie avec nous que si on est dans l'Église catholique. Il y a des branches protestantes qui sont moins dures avec la Vierge Marie. Mais enfin, dans l'ensemble, je dirais qu'il y a une forme d'incompréhension. Mais pourquoi mettre la Vierge Marie au centre? Il y a quelque chose qui, la plupart des protestants, je pense, a du mal à... La Vierge Marie, c'est pas dans leur... voilà. Donc, le lieu le plus saint... le lieu le plus saint pour un couple, ça va être beaucoup la pureté, on en a parlé, la pureté de notre conjoint et la pureté de nos enfants. Je pense que c'est un lieu de sainteté hyper important. Quand on arrive à veiller là-dessus, on a la présence du Seigneur avec nous, quoi. C'est pour ça que prier pour les films qu'on montre à nos enfants, les fréquentations de nos enfants, être toujours en veille, c'est veiller sur l'arche, quoi. Les parents veillent sur le lieu de sainteté par excellence, parce qu'une femme qui est pure, elle montre Dieu aux autres d'une manière phénoménale, quoi. Vous regardez une sœur consacrée ou une femme qui est belle, habillée de manière très féminine, mais pas avec une sensualité exacerbée, et ben en fait elle montre la présence du Seigneur. Les Juifs disent que la femme a la Shekinah, la présence réelle, beaucoup plus que l'homme, et que toutes les lois de pureté, pourquoi la femme est impure pendant toute une période, c'est parce qu'elle a la présence de Dieu de manière tellement forte que l'homme ne peut pas l'approcher. C'est ce que disent les rabbins, en fait. On parle d'impureté, mais en fait, le mot impureté est plutôt... c'est plutôt un état dans lequel on doit la laisser tranquille, en fait. Parce qu'elle a la capacité de monter les lieux célestes pour engendrer avec le Seigneur, pour créer un être humain avec le Seigneur, quoi. C'est ça, en fait. Et donc, tous les textes de l'Ancien Testament qui parlent de la nuée qui descend sur le peuple d'Israël, on peut les lire comme étant la présence qui descend sur l'homme et la femme, et en particulier sur la femme. Et donc, le rôle de l'homme, ça va être surtout de veiller sur sa femme et la pureté de sa femme. Et puis, le rôle de la femme, forcément, ça va être de faire attention à son mari pour ne pas qu'il se décourage, qu'il s'impatiente. Enfin, on veille mutuellement, hein, bien sûr. Et puis, les enfants, parce que ça... L'impureté est, à mon avis, la première cause pour laquelle beaucoup de chrétiens n'entendent pas l'appel que le Seigneur leur donne.